Bonjour à tous. Est-ce que tout le monde m'entend bien? Ça va?
Pour l'instant, oui.
Pour l'instant, il faut que je parle assez fort, donc je vais essayer de garder la même intonation. Que le Seigneur nous aide. Oui, Seigneur, nous voulons nous appuyer sur toi, sur ta grâce, sur ton Saint-Esprit, Seigneur, pour que tu nous guides, tu nous enseignes, tu nous soutiennes, nous renouvelles, nous reprennes aussi quand nous devons être pris, que tu nous instruises, Seigneur Jésus, par ta parole et par ton Saint-Esprit. Veuille bénir tous ceux qui sont partis se reposer, Seigneur, mais aussi ceux qui sont partis encadrer des enfants. Renouvelle-les, Seigneur, pendant ce culte aussi qu'ils font maintenant. Seigneur, en Creuse, garde-les aussi dans ta main et dans ta grâce. Amen. Dans Matthieu 10, 22, il est écrit « Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. » Celui qui persévérera jusqu'à la fin. 1 Corinthiens 1, 8, « Il vous affermira aussi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochable au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu est fidèle, lui qui vous a appelé à la communion de son Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur. » D'un côté, j'ai surligné, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, et sur les autres versets, il vous affermira. C'est Dieu qui fera ce travail de nous affermir, car Dieu est fidèle. Frères et sœurs, concernant la transcendance, qu'on appelle la transcendance, la foi, Dieu, ce qui nous dépasse, il y a trois types de personnes. Les athées, les agnostiques et les croyants. Il y a ceux qui ne croient en rien d'autre que ce qu'ils voient. Il y a ceux qui doutent de tout et qui disent que l'on ne peut rien affirmer, que l'on ne peut connaître la vérité absolue. Qu'est-ce que la vérité, a dit Pilate. Et il y a ceux qui croient qu'il y a quelque chose, une puissance, un Dieu, que l'univers n'a pu se créer tout seul. Encore faut-il pouvoir être en contact avec cet être suprême. Heureusement pour nous, Dieu nous a parlé. Dieu a parlé à l'homme. Dans Hébreux, après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu dans ces derniers temps nous a parlé par le Fils. Il l'a établi héritier de toutes choses. Par lui, il a aussi créé l'univers. Le Fils est le reflet de sa gloire et l'empreinte de sa personne, et il soutient toutes choses par sa parole puissante. Il a fait la purification des péchés et s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts. Frères et sœurs, pouvons-nous être sûrs de notre salut sans être prétentieux? Parce que certains diraient que c'est être prétentieux que d'affirmer certaines choses et que de dire que l'on connaît la vérité. Pouvons-nous être sûrs de notre salut sans être prétentieux? Eh bien oui. À partir du moment où nous ne nous appuyons pas sur nous-mêmes, mais sur Dieu, sur sa parole, sur ses promesses. Ce ne sont pas des choses qui viennent de nous, de nos pensées, de nos réflexions. Dans les Nombres, au chapitre 23, il est écrit « Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas ?» Il nous faut prendre Dieu au mot. Dieu fait une promesse, je la prends telle qu'elle est. Par exemple, dans Malachie, au chapitre 3, il est écrit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. » Prendre Dieu au mot, mettre Dieu à l'épreuve. Dieu dit, et Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Avez-vous peur de donner un dixième de vos revenus? 10%. Ça représente pas mal d'argent. Si vous faites cela, vous ne pourrez peut-être pas renouveler votre véhicule aussi souvent. Mais pourtant, Dieu fait une promesse. Il répandra la bénédiction. La bénédiction, ce n'est pas nécessairement matériel. Cela peut être la paix dans votre cœur, dans votre foyer, avec vos enfants. Les bénédictions de Dieu sont très variées. Dans Genèse 49, il est dit « C'est l'œuvre du Dieu de ton Père qui t'aidera, c'est l'œuvre du Tout-Puissant qui te bénira, des bénédictions des cieux en haut, des bénédictions des eaux en bas, des bénédictions des mamelles et du sein maternel. » Je prends Dieu au mot quand il s'adresse à moi, et il le fait tout au long de la Bible. Il ne s'agit pas de prendre des paroles qui ne me concernent pas et de me les appliquer. Parce que l'apôtre Pierre dit « Sachez tout d'abord vous-même qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être un objet d'interprétation particulière. » Car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc je ne vais pas essayer de détourner une prophétie qui serait pour Israël ou une prophétie qui serait pour un certain temps et le détourner sur moi. Non, je prends les choses qui sont adressées à moi. Et il y a tellement d'affirmations et de promesses dont je peux m'emparer, qu'il est bon de se les rappeler dans les moments difficiles, de se rappeler toutes ces promesses que le Seigneur nous fait tout au long de sa parole. Psaume 34. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie et le visage ne se couvre pas de honte. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache au danger. De toutes mes frayeurs, de toutes ses détresses, pas d'une seule. De toutes, tout au long de notre vie, nous en avons des frayeurs ou des moments de détresse. Mais à chaque fois, le Seigneur vient nous rassurer, nous apaiser. quand nous tournons nos regards vers lui, quand un malheureux, quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Le Seigneur vient à notre secours quand on tourne les regards vers lui. Matthieu 11, 28. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Pas seulement une certaine catégorie de personnes, mais vous tous. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés. Matthieu 11, 29. « Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. » Car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vos âmes. Vous voulez faire les choses tout seul, sans aide, en vous débrouillant, avec orgueil. Vous voulez être libre, mais vous êtes fatigué, il n'y a pas de repos. Acceptez de porter le joug du Seigneur. Faites ce qu'il fait. Synchronisez-vous avec lui. Si vous imaginez le joug avec deux bœufs, vous êtes à côté du Seigneur. Vous êtes synchronisé avec lui. Et en fait, c'est lui qui fera le plus gros du travail. C'est lui qui va vous aider à avancer. Ne restez pas seul. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Acceptez de croire. Jean 20, verset 26. 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous ». Puis il dit à Thomas « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Jésus lui dit « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Croire, croire les paroles du Seigneur. Croyez en Jésus, ayez foi en ses promesses. Psaume 32, « Je t'instruirai et te montrerai la voie que tu dois suivre. Je te conseillerai et j'aurai le regard sur toi. » Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on porte le joug du Seigneur, il est avec nous. Il est à nos côtés, il avance en même temps que nous. Je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Psaume 32, « Beaucoup de douleurs sont la part du méchant, mais celui qui se confie en l'Éternel est environné de sa grâce. » Romains 8, 28, « Nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. » Nous savons. Est-ce que vous savez, frères et sœurs? Est-ce bien certain et ancré dans vos cœurs et votre mémoire? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Si nous sommes dans l'amour de Dieu, si nous aimons Dieu, tout ce qui pourra arriver dans notre vie concourt à notre bien. Nous devons avoir cette certitude ancrée dans nos cœurs. Jean 5, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. 1 Jean 5, 12, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu, afin que vous sachiez. Et quand on sait quelque chose, frères et sœurs, on ne l'oublie pas. On le sait une fois pour toutes. Est-ce bien sûr pour tout le monde ici? Est-ce que tout le monde ici sait? Est-ce que cela est ancré en vous, dans votre âme, dans votre mémoire? Si je veux mettre en pratique ces paroles et vivre en accord avec la parole de Dieu, ai-je pour autant la prétention d'être parfait? Non, et pas la prétention d'être parfait. Et nous savons que tous sont égarés, tous sont pervertis, il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Ces paroles que l'on trouve dans le psaume 53, elles ont été reprises par l'apôtre Paul dans son épître aux Romains. Au chapitre 3, il reprend, selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Il n'en est aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Et dans le psaume 116, je disais dans mon angoisse, tout homme est trompeur. Comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Nous savons tous aussi la réponse qu'a donnée le Seigneur à notre besoin de salut. Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce passage, on le reprend souvent et moi-même je le reprends souvent. C'est un passage essentiel. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Puisque nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes, cela vient de Dieu. Nous avons aussi l'assurance que Dieu amènera toutes choses à la perfection. En Hébreu au chapitre 10, car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Et au chapitre 12, toujours de Hébreu, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. En échange de la joie qui lui était réservée, il a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Étant donné notre état de pécheur et que notre salut vient de Dieu, étant donné que c'est Dieu qui mène les choses à la perfection, il n'y a aucun moyen et aucune raison d'être prétentieux. Nous ne pouvons que marcher humblement avec le Seigneur. Le prophète Michée au chapitre 6 nous dit « On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. » Ayant en moi cette foi, cette confiance en Dieu, il me faut bâtir et construire ma vie jour après jour en m'appuyant sur ses promesses et en mettant en pratique ses paroles. Les siennes, ses promesses, ses paroles. Ce n'est pas de la théorie, c'est de la pratique. Il ne s'agit pas d'avoir de belles idées spirituelles. Il faut confronter ces paroles à la réalité de tous les jours. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu le disait au peuple d'Israël. Dans Deutéronome chapitre 7, « Si vous écoutez ces ordonnances, si vous les observez et les mettez en pratique, l'Éternel, ton Dieu, gardera envers toi l'alliance et la miséricorde qu'il a juré à tes pères. Et dans le Nouveau Testament, le frère du Seigneur, Jacques, nous redit au chapitre 1, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. » Pour rester stable, pour persévérer, comme nous l'avons lu dans les deux premières lectures, et ne pas être ébranlé par tout ce que je peux voir ou entendre, je dois être fondé sur le roc. C'est-à-dire que je dois mettre en pratique les paroles du Seigneur. Parce que dans Matthieu, justement, cette parabole de bâtir sa maison sur le roc, Jésus dit, c'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison, mais elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents soufflés et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme les scribes. Cette parabole nous montre bien les conséquences de notre obéissance ou notre désobéissance, de notre application des paroles du Seigneur ou de notre non-application. Il faut construire sur le bon fondement dès le début et rester sur ce fondement. C'est ce qui permet de rester ferme et résister. Si je commence sur le fondement et que je change les plans et que je poursuis sur des parties sablonneuses, l'ensemble risque de se disloquer à la première tempête. À moins d'être complètement ignorant et de vivre sa vie, comme on dit, au petit bonheur la chance, si nous tenons compte des conseils avisés de l'architecte divin, la construction de notre vie tiendra malgré les nombreuses turbulences. Et combien de drames à cause de l'ignorance, à cause du manque d'enseignement, à cause du manque de sagesse. Combien de ruines qui auraient pu être évitées. Nous devons être réalistes. On pense parfois que le chrétien est un idéaliste, un doux rêveur. Mais au contraire, il faut voir la réalité en face. Il faut voir la vérité en face. Et considérer notre état réel. Il faut évaluer les choses. Dans Luc 14, Jésus nous dit, « Car lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi la terminer ?» Il faut connaître ou reconnaître nos faiblesses pour demander au Seigneur de nous préserver du mal. Matthieu 6, « Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » Frères et sœurs, gardons dans nos cœurs ce que Dieu nous a donné. toutes les vérités que nous avons lues dans la parole de Dieu, que nous lisons régulièrement, gardons-les dans nos cœurs. Ce que le Seigneur nous a donné, gardons-le précieusement. Hébreux 6, c'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment, afin que par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Cette espérance, nous la possédons comme une ancre de l'âme, sûre et solide. Elle pénètre au-delà du voile, là où Jésus est entré pour nous comme précurseur, ayant été fait souverain sacrificateur pour toujours, selon l'ordre de Melchisédek. Il est impossible que Dieu mente. Notre âme est ancrée sur le serment fait par Dieu. Dans 2 Timothée, au chapitre 3, Paul dit à Timothée, « Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage et salut par la foi en Jésus-Christ. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ces choses que tu as reconnues certaines, nous devons les garder dans nos cœurs. 1 Timothée 6, ô Timothée, garde le dépôt en évitant les discours vains et profanes et les disputes de la fausse science. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Quelle certitude devons-nous garder dans nos cœurs qui nous aidera à tenir ferme jusqu'à la fin? Je pense que la connaissance de l'amour de Dieu pour nous personnellement et qui a été manifestée à la croix est la vérité essentielle qui nous gardera jusqu'à la fin. Et c'est pour cela qu'on dit que ce verset de Jean 3,16, c'est le cœur de la Bible, c'est le cœur de l'Évangile. C'est une vérité essentielle que nous devons garder en nous et qui nous aidera à avancer, à tenir ferme. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, c'est-à-dire moi, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Si je garde jusqu'à la fin cette foi en l'amour de Dieu et que Dieu a donné son Fils pour que moi j'aie la vie éternelle, alors je tiendrai ferme jusqu'à la fin par sa grâce. Que le Seigneur vous accorde sa grâce et sa paix.